La saison des terrasses va commencer en force sur la rive sud avec le Festibiaire de Lévis du 25 au 28 juin. Le site extraordinaire du Quai Paquette qui est mis en vedette avec les micros, les distilleries, les vignobles, Matt Lang en spectacle, Valère, un hommage au cowboy fringant. On a deux verres et quatre dégustations à vous remettre. Pour repartir avec le prix, il faut répondre correctement à la question houblon numéro 2 du jour. Dans quel pays consomme-t-on le plus de bière par habitant? Est-ce que c'est A, l'Allemagne, B, la République tchèque ou C, le Saguenay? Le Saguenay n'est pas un pays, quoi que mes cousines en pensent. Vous pensez que c'est l'Allemagne ou la République tchèque, Audrey, pour le fun?
J'ai pas écouté ta question. Je suis vraiment honnête avec toi. République tchèque.
Mais tu sais pas c'est quoi la question?
Je vais répondre Saguenay. Répète d'un coup que quelqu'un peut écouter non plus, là.
Ça me tente plus. 418-971-1021 par texto pour les gens qui m'écoutaient. Les autres, allez chez le bonhomme, hein? 418-971-1021.
Non, mais j'aurais pu te répondre n'importe
Qu'est-ce
quoi.
Qu'est-ce que tu faisais?
Je regardais en circule.
Tu préparais l'annonce de demain?
Ben, il y a des choses à dire là-dessus. Là. Les boss m'ont bien averti. Là.
Grosse annonce de Gravel dans le retour, sur l'avenir de Gravel dans le retour, demain 16h, soyez-y.
Ça achève, ce show-là.
418-971-1021. Oubliez pas votre nom, oubliez pas votre prénom pour gagner accès et dégustation pour le Festibiaire de Lévis du 25 au 28 juin.
Fait que c'est quoi la réponse?
Ben, je la dis pas la réponse, faut que le monde la donne. Moi, je l'aurais pas eu. Je me serais trompé. Puis je le dis de façon très honnête. Puis ça peut peut-être aussi diriger votre choix de réponse. Fait que bonne chance à tous. Bonne chance à toutes. C'est parti. Beaucoup de gens qui se trompent, effectivement. C'est niaiseux de même, là. On a comme un préjugé envers un pays en particulier versus la bière. Puis je parle pas juste du Saguenay, là. Je parle d'un autre. Qu'est-ce qu'il y a?
Je trouve tout drôle.
On dirait, hein?
Oui, tout est parfait. C'est... J'avais de l'actualité lourde, puis tout. Ça fait comme ça rire un peu, là.
Hey, rappelez que Patrick Bruel s'en va en prison.
En fait, non. Il s'en va peut-être en prison. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il a été mis en examen, donc il va être inculpé, là, pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel.
Bien, il est détenu préventivement. Fait que non, c'est pas ça.
Le ministère public a demandé son placement en détention provisoire. Fait que là, actuellement, il est devant un juge de liberté et de détention qui va décider si oui ou non on l'incarcère dès maintenant. Fait qu'on a...
Le suspense se poursuit. Je t'ai comme coupé la parole, Véro, puis là, ça a fait un blanc.
Il y a beaucoup de blanc dans
cette
émission-là.
Ce show-là, ça en va, ça dérape.
Ouais, on dirait, hein? Mais ouais. Depuis tantôt, moi, je suis concentrée sur la circulation, là, fait que je peux
toute ton énergie est là, hein?
Bien, c'est ça, je peux vous en parler si vous voulez.
La circulation ou de l'annonce de demain à 16h?
Veux-tu qu'on parle de l'annonce de demain à 16h?
Absolument pas, c'est demain à 16h.
C'est rare que c'est moi qui ai hâte de... Tu sais...
Ben là, t'as hâte. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Ben, on le sait pas. Ça va être à ta interprétation multiple.
Mais y'a-tu un boss qui vient s'asseoir pour la nouvelle?
Ben, je pense que oui. Je sais, ça doit, il faut. C'est gros.
À suivre. Demain, 16h.
C'est rare que c'est toi qui coupe. Tu veux-tu l'entendre ou pas, ma circule?
Elle est pas finie.
Elle l'a toute rédigée, là. C'est ça qu'elle faisait.
Là, c'est ça que je tapais, là.
OK, fais ta circule, puis je vais faire autre chose.
OK.
Fais comme toi. S'écoute pas dans
Donc,
show,
mon texte là. Commence comme ceci. Si vous êtes sur la capitale direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, c'est au ralenti. Direction Ouest, c'est entre Henri Bourassa et Laurentienne.
Saluez les gens qui nous écoutent pour la première fois en raison de nos bons sondages la semaine passée. Vous êtes vraiment tombés sur la meilleure de l'année.
Hey, des citrons, ça arrive, hein?
Ah oui, c'est ça qui arrive.
C'est bon de temps en temps de l'acide. Si vous êtes sur Robert Bourassa...
C'est toi ça ton texte, Audrey. Mm-hmm. J'ai pas écrit ça pour rien, là.
J'ai écrit Robert Bourassa, direction nord, entre Charré et la capitale. C'est inscrit aussi que si vous êtes à l'entrée des ponts en ce moment, que vous soyez sur Duplessis ou Henri IV, ça commence à ralentir à partir de chemin Sainte-Foy. Pour ce qui est de la 20, direction ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata. Direction est, c'est entre les ponts et Taniata. Pour le reste, ça semble quand même correct. Autre chose, 88-971-102 texto.
Saluez les gamers qui sont de plus en plus nombreux à vieillir dans le monde des jeux vidéo. Je vous rappelle que l'âge moyen du gamer est rendu dépassé 40 ans. J'ai terminé Resident Evil Village. Moi, je suis un gamer cheap.
C'est la chienne.
J'attends que les jeux vidéo tombent en spécial. C'est complètement débile. Complètement débile. Et c'est la première fois que j'ai réussi de ma vie à faire un jeu à la première personne. Ça, c'est juste quand tu vois ta main pis le gun là, sur l'écran. Là.
Ça, c'est ce qui me donne le goût de vomir partout.
Ouais,
je suis pas la seule. Hein.
J'ai toujours eu de la misère avec ces jeux-là, mais là, l'histoire m'a embarqué. Le feeling d'avoir la chienne m'a embarqué. C'est toute une ride de montagne russe, Resident Evil Village. Puis quand je vous dis que je suis un gamer cheap, je suis un gamer en retard parce que depuis Village, on a sorti un nouveau Resident Evil qui s'appelle Requiem et qui est, semble-t-il, encore meilleur. Mais en tant que gamer cheap, moi, j'achète les jeux en retard pour deux raisons. La première, c'est le prix. La deuxième, c'est que pour une fraction du prix au lancement, si un jeu avait plein de bugs et plein de problèmes, 3 ans plus tard, normalement, avec des patchs et des téléchargements, ben les problèmes du jeu sont réglés.
Comme mettons Cyberpunk.
Justement, quel drôle de hasard.
C'est pas un hasard, ça a été le pire jeu au lancement. Oui. Semble-t-il qu'il est vraiment bon avec les patchs.
Je m'adresse à la communauté des gamers. Hier soir, à 23$, j'ai acheté Cyberpunk.
Il est sorti en quelle année?
Rempli de confiance, ça doit faire 2-3 ans, au moins. Au moins, sinon plus. Ça fait combien d'années? Cyberpunk 77? C'est la compagnie de jeux vidéo CD Projekt Red qui était à la tête de ce projet-là. Puis on attendait, écoute, le jeu vidéo avait autant de hype que Grand Theft Auto 6. Mais quand il est sorti, le jeu était incomplet, était rempli de bugs. Sur certaines plateformes, le jeu était injouable.
Je trouve que c'est insultant pour vous autres qui payez ça, genre 100$.
Hey, le monde qui achète ça en pré-vente pour avoir des affaires exclusives, là, des fois, ils payent 150$ pour un jeu vidéo. Ils ont le jeu vidéo, sont pas capables de le jouer. Sur la PlayStation 4, Cyberpunk était injouable. Il y avait trop de bugs. Le jeu plantait tout seul.
Dans ta tête, il était sorti il y a combien de temps?
Je disais 2-3 ans.
T'as vraiment une dysmorphie de temps. Il est sorti en décembre 2020.
2020?
Il est en jeu.
C'est un jeu de la pandémie. On avait besoin de ce jeu-là, en plus. On était pognés à la maison. Ça n'a pas de bon sens, mais je voulais savoir les gamers qui ont passé à travers Cyberpunk. Parce que moi, la première impression que j'ai eue hier en l'ouvrant, c'est « wow, c'est complètement débile ». Puis, tu sais, je viens de finir un jeu d'horreur qui se déroule un peu dans un univers médiéval, un village abandonné. Puis là, je me ramasse dans le futur avec du techno bord en bord des oreilles. Je trouvais ça complètement pété, mais je suis tellement pas bon, là. Mais pas bon, là. J'ai une séquence de combat à passer, puis je suis pas capable. Je suis pas capable.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Je le sais pas. Je vais faire comme d'habitude, je vais persévérer, mais j'espère pas me tanner. Mais je veux savoir les gens qui l'ont joué si ça vaut vraiment, vraiment la peine. Parlant de jeux vidéo, c'est vraiment pas mon style, mais ça, c'est pas important. C'est le fun quand des gens dans le monde indépendant du jeu vidéo réussissent à s'établir. Tu sais, le succès historique de Clair Obscur en France, qui a gagné un nombre record de prix l'année passée, ça inspire bien du monde et ça doit inspirer bien du monde. Là, le dernier succès dans le monde du jeu vidéo, c'est un succès made in Québec.
Puis, à Québec?
Le gars est originaire de Lévis. Le gars derrière l'idée est originaire de Lévis. Son studio de jeux vidéo indépendant est du côté de Montréal. C'est un studio de jeux vidéo de 15 personnes. OK? Ils sont près du marché Atwater à Montréal. Belle place, le Brousquier est pas loin. Vient de réaliser ce que les grandes multinationales du jeu n'arrivent plus à faire. Créer un buzz mondial en quelques heures. Ils ont lancé Paralives sur la plateforme Steam le 25 mai dernier. Et on a déjà vendu 900 000 copies en 15 jours à 50$ l'unité. Ça veut dire que le studio de 15 personnes a touché 31 millions de dollars en revenus après la commission de 30% de Steam. Steam
c'est une plateforme?
Est une plateforme où tu vas télécharger des jeux sur ton ordinateur, effectivement. Eux autres se prennent un 30% de commission, ce qui m'apparaît énorme, là. Personne n'a mis la main dans sa poche pour financer l'aventure. Pas d'investisseurs, pas d'éditeurs à rembourser. Le studio s'est bâti sur 7 ans de sociofinancement via Patreon.
Wow!
à raison d'environ 50 000 $ par mois, 4 millions de $ au total. Il y a eu le crédit d'impôt multimédia du Québec. Certains le critiquent parce que ça donne un break, mais ça rembourse 37 % des salaires. Ça a complété le tableau. Les 15 employés se partagent 12 % des revenus du jeu. Paralives.
Ça fait 250 000 par employé.
Exactement.
C'est hot.
C'est pas pire, hein? Paralives est un simulateur de vie en monde ouvert, inspiré de la ville de Québec. Quand vous regardez les tableaux, quand vous regardez le display, c'est carrément le vieux Québec. Les joueurs construisent des maisons, créent des personnages, gèrent leurs relations, leur carrière. Bref, c'est The Sims dans le vieux Québec.
C'est tellement beau, les images.
Alex Massé est à la tête de ça. Il a 36 ans, il est natif de Lévis. Il a tout misé sur un feeling qu'il a eu en 2019. Il se disait, il n'y a personne qui concurrence The Sims.
C'est vrai.
Il n'y a personne d'autre qui fait des jeux comme The Sims. Il a quitté son emploi chez Unity, moteur de jeu qu'il utilisera pour Paralives. Il a commencé seul chez lui à faire des prototypes qu'il publiait sur YouTube. Puis c'est avec ça qu'on se servait pour dire, hey, financez le jeu. Puis on va avoir un produit fini qui va vous plaire. Il raconte au début, il dit « J'étais un peu trop optimiste. Je pensais finir le jeu en 2 ou 3 ans. » Finalement, ça a pris 7 ans. En une seule heure lors du lancement, 100 000 copies s'étaient déjà vendues. Puis il y a peut-être des gens qui se demandent « Ouais, mais
le buzz
part de où? » C'est que, tu sais, des fois, quand les étoiles sont alignées dans la vie, là, et c'est exactement ce qui est arrivé à Paralives. Les Sims se font blâmer sur plusieurs fronts. C'est une série de jeux vidéo qui existe depuis très longtemps, là où tu entraînes ton petit Sims à aller travailler, faire caca dans sa toilette, bâtir des relations. C'est plate à mourir, oh, mais les filles aiment ça.
Hey!
J'ai plein de micros, ben oui, voyons!
C'est que les Sims vendent les expansions et des choses en bonus, comme c'est souvent la mode dans les jeux vidéo dans les dernières années. Fait qu'on te fait cracher le cash pour avoir le jeu, puis on te fait cracher du cash pour avoir des expansions, pour avoir des bebelles de plus, et ainsi de suite. Paralives, tout est gratis. T'as acheté le jeu, on va te le mettre à jour, on va rajouter des expansions, on va rajouter des bebelles, toi, tu ne payeras pas une scène de plus. Tu payes le 50$ de départ.
Et comment tu deviens rentable?
Écoute, là, ils ont fait combien?
En multipliant les gens qui vont acheter le jeu.
C'est ça.
Parce que ça devient incontournable vu que c'est un monde ouvert.
Le pari, comment ça devient rentable? Sont 15. EA Sports ou EA Electronic Arts sont des milliers dans la compagnie de jeux vidéo à travers le monde.
C'est pas tous les jeux qui performent, ça leur coûte une fortune de faire du développement. Disons que le roulement de EA, ça doit être spectaculaire.
La meilleure façon de se mettre riche, c'est d'avoir le jeu indépendant qui va avoir du succès à la mode. Puis c'est carrément ce que le kid de Québec est en train de faire. Il est arrivé la situation suivante. Les Sims d'Electronic Arts coûtent jusqu'à 2000 $ si tu veux toutes les extensions. Les joueurs n'aiment pas ça, payer en surplus pour les extensions, les contenus à télécharger, puis ainsi de suite. Et en plus de ça, Electronic Arts vient d'être racheté par un consortium qui inclut le fonds saoudien et une société liée à Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump. Résultat, dans la semaine suivant la transaction, il y a des millions d'abonnés qui ont fait « gap, ciao, bye ».
C'est des créateurs de contenu qui, eux autres, publiaient, dans le fond, leur vie sur The Sims, sur différentes plateformes, qui ont choisi une autre plateforme. Fait qu'eux font la promotion de Paralives. Fait qu'après ça, ça a c'est juste fait des petits, puis c'est devenu viral en l'espace de quelques instants.
Fait qu'il y a comme des centaines de milliers de fans de The Sims qui se sont dit, nous autres, on n'encourage pas l'Arabie Saoudite, on n'encourage pas Donald Trump. Puis là, eux autres sont arrivés, puis ils ont fait, hey, nous autres, on a un nouveau The Sims. Tu payes 50$, tu ne payes plus jamais, puis tu vas financer le monde du jeu indépendant. Puis ça a été le secret du succès. Puis ça a parti en feu en l'espace d'une semaine.
L'article du journal finit en disant que c'est même pas la version finale du jeu. Il est attendu dans 2 ans parce que, tu sais, tu parlais d'expansion tantôt, là, le volet des saisons, parce qu'on va avoir 4 saisons dans cet univers-là, des animaux de compagnie, puis peut-être une sortie sur les consoles, parce que là, sur Steam, ça prend absolument un ordinateur pour être en mesure de jouer, ça pourrait venir. Puis ils disent que déjà, dans les suggestions de ce qu'ils pourraient créer pour cet univers-là, sont à 200 000 suggestions de joueurs.
C'est
ça dit à quel point il y a déjà un attachement qui s'est fait pour cette plateforme-là.
Le feu, quand le feu pogne dans le monde du jeu vidéo, ça pogne vite puis ça pogne fort. C'est pas une industrie qui est facile, puis il y a beaucoup d'entreprises de jeux vidéo qui ont fermé leurs portes à Québec. Mm-hmm. Puis le phénomène qu'ils expliquaient, c'est que c'est tellement dur parce que maintenant, les gens tripent sur les extrêmes. Soit que c'est la petite boîte où il y a 15 personnes, soit que c'est la méga production... en termes de milliards de dollars, tu sais, avec l'orchestre symphonique qui fait la musique, puis les scénarios, puis ainsi de suite.
Mais il y a un flou en dessous.
Entre les deux, on dirait que tout tombe dans le vide ou à peu près, puis c'est malheureux.
Puis les gros studios qui ont grandi excessivement vite, t'sais, à un moment donné, on ne jurait que par Ubisoft.
Oui.
Encore aujourd'hui, Ubisoft qui a annoncé que là, ils fermaient leur studio du côté de Winnipeg. C'est 65 employés qui perdent leur emploi. Mais on s'attend à ce que ce ne soit pas terminé dans cet univers-là.
Je vais terminer ma chronique de Gamer Cheap en parlant d'Ubisoft, justement. Je me suis procuré aussi à prix réduit le dernier Assassin's Creed, Shadows. J'ai beaucoup de misère à embarquer. Ça fait une heure que je joue, j'ai pas touché à ma manette encore. Tu sais, les longues introductions...
Moi, je perds le fil.
Ouais.
Très rapidement. Tu sais, c'est beau des cinématiques, mais ces cinématiques-là doivent m'amener quelque chose parce que moi, si j'ai pas... Je peux pas interagir. Moi, regarder une série à la place.
Ouais,
puis le problème du nouveau Assassin's Creed, ou plutôt du plus récent Assassin's Creed, c'est que c'est dans le monde des samouraïs. Mm. Et dans le monde des samouraïs, les gamers, on a été gâtés dans les dernières années.
Comment ça s'appelait?
Ghost of Onimusha. C'est ça?
C'est Tsushima.
C'est pas Tsushima.
Ghost of Tsushima. Onimusha, c'est d'autres choses. Ghost of Tsushima. Merci, Audrey.
Seigneur, je peux même pas croire que je...
Les
je t'écoute
le
tout, je t'écoute
tu connais, tes classiques. Mais
pour savoir si vous écoutez.
Ghost of Tsushima est un jeu écœurant et parfait d'un bout à l'autre. Puis ils ont sorti le nouveau, le plus récent, Ghost of Yotei. Puis entre les deux, t'as un jeu de samouraï d'Assassin's Creed. J'ai l'impression de revivre le même scénario avec les mêmes affaires dans le même ordre, mais en un petit peu moins bon. Fait que j'ai bien de la misère à embarquer. Hey, merci aux gamers qui m'écrivent sur Cyberpunk. Ça a l'air que c'est extraordinaire puis que c'est complètement pété. On me dit de jouer facile pour avoir du fun. Donc, c'est probablement ce que je vais faire.
Puis que ça te prend des DLC, puis c'est
ça. Ouais, mais je pense que dans la version qu'on vend présentement, c'est des affaires qui s'ajoutent ou qui sont déjà ajoutées. Bref, il est 17h21. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour.
Boulevard
102.1.
17h28, on a ouvert ce qu'on appelle une boîte de Pandore hier après-midi, en commençant notre discussion sur la musique québécoise, qui finalement a un petit peu convergé vers les meilleures chansons de l'histoire du Québec. Et là, on se disait, ça serait le fun de faire un genre de palmarès, de faire un top des chansons les plus importantes du Québec dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient à grands pas. Bonne Saint-Jean! Et est-ce qu'on a trouvé une façon de comptabiliser ou de bâtir notre projet où c'est trop compliqué puis on va baisser pavillon?
Bien, on l'avait trouvé hier, il faut juste le faire.
OK, on commence ça quand?
On peut le commencer maintenant. On s'était dit qu'on prenait vos suggestions, Véro les a mis de côté. Idéalement, on écoutait ces suggestions-là en ondes.
OK.
Puis les auditeurs votent pour leur top 3 de ces chansons préférées-là, ce qui revient le plus souvent, fait le bracket.
Puis on va avoir comme ça combien de chansons à chaque fois?
Moi, je vote pour un bracket, encore une fois, de 8 avec
non,
les
non,
jours
non, non, mais
reste,
avant de choisir les tunes qui vont faire le bracket, là, mettons qu'on commence aujourd'hui. Ce qu'on ne fera pas, on va peut-être commencer demain.
On va commencer demain.
On va commencer demain,
ben,
oui.
Il faut tout faire demain à ce moment-là, parce que si on veut avoir le temps de faire notre bracket, il faut qu'il soit publié vendredi.
Mais là, on a de l'ouvrage demain, parce que demain, on a 3 invités. On a une annonce importante à 16h. Le show est déjà pas mal loadé. Là.
Effectivement.
Moi, je suis pas le gars des solutions, là. Je soumets la situation. Ben, j'aimerais ça qu'on se rende au bout de ce projet-là.
Moi, j'aimerais ça aussi. Je pense que ça peut se faire demain. T'sais, oui, ça va être un gros show, mais je pense que tout le monde est prêt pour un gros show. Écouter de la musique, c'est jamais détestable.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a moyen, au pire, de commencer ça vendredi puis d'en venir à bout avant la Saint-Jean? Pas sûr?
Ben, c'est serré en temps, là.
Moi, je pense qu'on est capable.
Il nous faut 8 jours.
8 jours?
En ce moment, il reste 10 jours avant qu'on tombe en vacances.
OK. Fait qu'avec 8 jours, on est correct.
Fait que vendredi, il faut que les gens puissent commencer à voter.
Parfait. Fait qu'on va être prêt vendredi.
Fait qu'il faut que demain, on ait choisi nos chansons.
Oh, ah ouais, OK.
C'est, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de dire. Wow.
418-971-1021. Quelles tunes doivent se retrouver dans le pot pour la meilleure chanson québécoise?
C'est pas scientifique, c'est émotif. Là. On va prendre ce qui revient le plus. Mais ben oui, c'est tough. Mais c'est pour ça que ça vaut la peine d'écouter les suggestions qui nous sont envoyées. Tu sais, je veux dire, il y a un article de 2022 qui nous montre un top 100, puis il y en a qui sont même pas là-dedans.
Top 3 de chacun d'entre nous. Go! Véro, top 3 des tunes québécoises, les meilleures tunes québécoises.
La folie en 4 de Daniel Bélanger.
OK.
Je l'ai aussi.
Ensuite de ça, je vais sûrement mettre une tune de Malajub, mais j'ai pas choisi laquelle.
Ah oui, Malajub.
Ah oui, absolument. C'est sûr.
Ça fera pas la cote.
Je le sais, mais c'est pas grave. Okay. Tu m'as dit d'y aller top 3 mes tunes à moi.
Mais si t'as de la misère à en sortir une, t'es peut-être pas sur le bon cheval, par exemple.
Arrête, parce que j'en sortirais 10, c'est pas pareil.
OK.
Je veux pas un cheval pour gagner. Tu m'as dit que c'était de l'émotivité.
Oh oui, absolument.
Puis sinon, je suis screwed pour la troisième, je sais pas en tout.
Ordinaire de Robert Charlebois.
OK.
I Lost My Baby de Jean Leloup. Et puis... Regarde, je voyais avec le cœur, Promenade sur Mars d'Offenbach.
Ça marche, ça.
Ça, c'est ça serait les trois miennes. Faut pas trop que je réfléchisse parce que là, j'en trouve plein d'autres.
Là, moi, mon problème, il est là. Je pourrais te sortir... c'est parce que là, j'ai les artistes, mais là, les tunes...
Chantelet.
Hier, j'ai parlé d'encore et encore de Laurence Jalbert. Mm-hmm. Je pense que c'est une grande chanson. Je pense qu'on est obligé de mettre du Ginette Renaud. Je vais y aller avec... C'est beau.
C'est beau!
C'est magnifique, cette chanson-là.
Oui, oui, oui.
Comme troisième...
Cowboy.
Ben, moi, tune d'automne en est une qui me renverse complètement, mais tu sais, je... Ah, Seigneur! Ça marche pas! On l'aura jamais!
Je te le dis que ça va être tough.
On l'aura jamais!
Ça va vraiment être tough. Juste en trouver des personnels, c'est dur. Puis là, moi, j'ai pris Promenade sur Mars de Offenbach. Il y a un gars qui m'a juste écrit Aïe aïe de Offenbach. Puis je suis en train de changer d'idée.
Mais je t'ai parlé de Ginette Renaud. Je ne suis qu'une chanson. Je suis en train déjà de...
Non, c'est tough. Tough.
C'est difficile, mais je pense que si on y va avec des suggestions d'auditeurs en partance des douanes, puis dans ce qu'on vous fait entendre, l'exercice, c'est de nous sélectionner votre top 3. Fait que de cette façon-là, je pense qu'on a quelque chose de facile qui peut se dessiner.
Fait que là, tu dis que dans un show hyper loadé demain, où on a une annonce importante à faire, qu'on a trois invités, c'est là qu'on va faire nos brackets avec les auditeurs?
On peut faire du ménage puis faire quelque chose aujourd'hui.
Ouh. Fait que c'est quoi qu'on demande aux auditeurs? Le top 3?
Ben le but en ce moment, c'est que les auditeurs nous envoient leur chanson.
Comment? On aurait dû avoir cette conversation-là avant d'ouvrir le show à 14h. Oui, absolument.
Je fais les règles.
Oui.
Vous nous envoyez au 88-971-1021 à l'instant la plus grande chanson québécoise selon vous.
OK, une.
Allez-y instinctivement, réfléchissez pas trop, vous allez vous perdre. On n'a pas fini.
C'est pas un concours.
Non.
On y va au feeling.
Fait que celle qui vous vient en tête.
OK.
OK, là. Véro a déjà commencé à en mettre de côté.
Ouais.
Elle va les mettre de côté. Si tu veux qu'on entende ça demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un segment musical où Véro va pitcher les suggestions. On écoute de la musique.
C'est parti. Les étoiles filantes.
Ben oui.
Un musicien parmi tant d'autres.
Ben oui, c'était sûr. Tu sais, les étoiles filantes, j'ai l'impression qu'elle va être dans le top.
Envoyez-les pareil.
On a parlé de ça hier pendant une demi-heure. Il n'y a personne qui a nommé l'escalier de Paul Piché.
Non, j'en avais des textos.
Elle vient de rentrer. Là.
Je l'avais déjà dans les.
Hey, l'escalier de Paul Piché, c'en est-tu une, ça?
Puis tu sais, c'est pas juste nécessairement des chansons qui sont tristes. Là. On a parlé de Bob Épine. Ça rentre là-dedans.
Ben oui.
Là. Je veux dire, il y en a tellement. Fait que vous nous envoyez votre chanson.
L'hymne à l'amour.
On prend des notes.
Tu m'aimes-tu?
Demain, on les écoute.
Le répondeur.
Et ensuite de ça, on fait une sélection.
Le pique-bois.
Les ailes d'un ange. Le pique-bois de Beau Dommage. Ben oui.
Laisse-moi donc tranquille.
Une chance qu'on sait de Jean-Pierre Ferland. Ben oui, Jean-Pierre.
C'est sûr.
Belzébuth des Colocs. Salut Salaud de Vilain Pingouin. J'achète, c'est très bon.
Et je reviens avec Si Fragile. Je ne l'ai pas nommé dans mon top 3 tantôt.
Luc de la Rochelière.
Oui.
La délinquance, Vilain Pingouin, Malade, Noir Silence, Amberne des Cowboys Fringants. Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir de Paul Piché. Ben oui. L'hymne à l'amour version Jerry, ça compte-tu, ça?
C'était beau, cette version-là.
Oui. Mais Edith, ouais. Ouais, on est correct.
Je l'hymne pense à l'amour, que oui.
C'est bon, tabarnouche. La vie chante de René Simard. Est-ce que c'est dit sérieusement, ça?
Non.
On dirait, je suis pas sûr.
Non, mais chacun ses patentes.
Non, ils ont le droit. 1990 de Jean Leloup. Les pauvres de Plume la Traverse. C'est bon, ça. On va s'aimer encore. Vincent Vallière. pour un instant d'harmonium, heureux d'un printemps, Paul Piché.
Les blues passent plus dans la porte.
Hey, c'est tough, que c'est tough, que c'est tough. C'est zéro, Julie Masse.
C'est quand même une belle chanson. Hein.
Ben oui, oh oui, absolument. Tu pensais-tu que j'allais bitcher?
Ben non? Moi, je... OK.
T'allais bitcher?
Non.
Audrey Pinchot, allais-tu juger le choix émotif de certaines personnes?
Ben, c'est ça, je me rends compte, c'est pas scientifique. Mais là, la plus grande chanson québécoise, je veux dire.
Dixie de Harmonium. Mon arrière-grand-père, ça, c'est dégénérescence. Décadence.
Non!
Mes aïeux. Les étoiles filantes, la marine marchande.
Bon, j'ai l'impression qu'on a une au moins qui va déjà...
Halloween de Jean Leloup.
Oh, franchement, ça, c'est une blague.
Ah oui, ça serait malade, ça. Écoute. Halloween, c'est une, au moins top 3, là. Femme de rêve de Claude Dubois, ben oui.
Ça sera pas si compliqué.
Non, parce que t'as commencé à juger.
Ben, non, mais je me dis, puis je vais vraiment y aller.
Immense, hein?
Je vais y aller avec l'accumulation de ce que vous mettez. On peut taper les titres puis avoir le nombre de textos qui sort. Fait que demain, on va écouter ce que Véro a noté. Puis... dans ce lot-là, vous allez devoir nous envoyer vos trois préférés, ouais. Puis on va faire une accumulation. C'est okay. Vraiment le même, ça va se passer.
OK. Puis tu penses qu'on va vraiment réussir à se rendre au bout du processus?
On va sortir avec 8 tounes.
Une chanson par artiste, okay. Maximum.
Oui, oui, oui.
Parce que, tu sais, là, on a genre tout le catalogue des Cowboys Fringants puis de Daniel Bélanger au complet.
Ça,
là, mais
ça va être une toune par artiste, ouais. Effectivement. Puis on termine avec quoi? On termine avec un top 10, un top...
8.
Un top 8.
C'est ce qui nous reste comme temps d'ici le 23. C'est pas scientifique, c'est émotif.
On va se faire brasser, là.
C'est sûr, tout le
monde va en manquer plein, là. Ben oui.
C'est pas grave, on fait ça pour le plaisir, pour écouter de la bonne musique.
On fait ça pour le plaisir, puis on fait ça pour la Saint-Jean-Baptiste.
Oui, c'est ça, vive la Saint-Jean.
La Saint-Jean. On aime ça, la Saint-Jean.
C'est sûr qu'on va se faire ramasser.
On revient, ce sera pas long. Il est 17h38. Gravel. C'est quand même pas une tragédie en soi, mais tu sais, les tounes des colocs qui ont résonné le plus, c'est des tounes de fête, hein? C'est la rue principale, c'est la petite Julie, puis je vois que ça sort dans les suggestions pour les tounes québécoises, mais...
T'avais rien qu'une petite nuit, non?
Juste une petite nuit.
C'était bon, ça.
Mais tu sais, à cause de la finalité qu'on connaît avec Dédé Fortin, on dirait que Le Répondeur, qui est une excellente toune... est comme devenue la chanson
de référence
des colocs, alors que la musique des colocs, à la base, plus souvent qu'autrement, c'était de la musique de party, c'était de la musique de fête, mm-hmm. Puis c'était de la musique de célébration. Puis j'étais en train de réfléchir, tu sais, si on permet juste une toune par artiste, ben voici un des nombreux dilemmes que nous aurons à trancher. La chanson qui représente les colocs, c'est quoi? C'est « Passe-moi à Poc » ou c'est Le Répondeur? On n'est pas pantoute à la même place.
C'est comme si c'était deux groupes.
Robert Charlebois, c'est Ordinaire ou c'est Entre deux joints? Tu sais, on peut faire ça avec presque tous les artistes. Mm-hmm. Paul Piché, il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir ou l'escalier. Tu sais, on est capable de trouver...
On peut le faire avec tout le monde.
On peut le faire avec tout le monde. Regarde, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Ça se peut qu'on vous en parle plus demain puis qu'on fasse semblant qu'on n'a jamais abordé ce sujet-là.
C'est ça
que
t'essayais tantôt.
Oui, peut-être un peu, effectivement.
Pourquoi tu l'as ramené sur la table de bord?
Il espérait qu'on creuse ensemble un trou dans une cour arrière pour faire
ça, mais j'abandonne paraître
un corps de manière subtile.
Non, faut pas abandonner. Faut pas abandonner.
Fait, c'est tout, là.
On va avoir de la résilience, mais je dis qu'il y aura des choix déchirants que je considère presque comme impossibles. Est-ce qu'on a des nouvelles concernant la comparution de Patrick Bruel?
C'est toujours pas fini. C'est un autre huis clos qui a lieu parce que, bon, il y avait eu d'abord une première rencontre qui s'est faite devant 4 juges, puis à la suite de tout ça, on l'a inculpé pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on aimerait ça qu'il soit incarcéré, qu'il comparait devant un juge des libertés de la détention. Il est là à ce moment-ci, ça fait plus d'une heure qu'il est devant ce juge-là. Fait que c'est toujours pas fini. Il est rendu 23h39, heure de France.
Tabarnouche.
Fait que ça a duré des heures et des heures, ce qui s'est passé aujourd'hui.
Je vois depuis une heure ou deux des vidéos hallucinantes passer de l'inauguration de ce qu'on appelle la Sagrada Familia.
En fait, c'est la dernière tour qui aujourd'hui a été bénie par le pape Léon XIV.
C'est une église à la base, ça?
C'est maintenant une basilique, okay. Mais elle a une histoire absolument fascinante. Puis on vous en
Lego,
a...
là?
Hein? On vous en a glissé rapidement un mot la semaine passée à cause du Lego, effectivement. Par contre, la basilique a une histoire absolument spectaculaire. Et si vous êtes déjà allé à Barcelone puis vous l'avez déjà vue, vous allez me faire chier parce que je suis un peu jalouse. Je rêve de voir cet endroit-là. Mais son histoire est fascinante. Sa construction n'est toujours pas terminée. C'est juste qu'aujourd'hui, ce qu'on bénissait, c'était la plus haute tour de cette basilique-là, qui s'appelle la tour de Jésus-Christ.
172 mètres de haut.
Oui, puis l'architecte à l'origine de tout ça, il faut savoir que c'est une construction qui a débuté en 1882, il y a 144 ans de ça. Et l'architecte de tout ça, M. Gaudi, qui est d'ailleurs décédé il y a 100 ans, jour pour jour, frappé par un tramway. C'est pas des jokes.
Oups, okay.
Ouais. Lui, c'était un homme qui était ultra pieux. Et ce qu'il avait fait, il avait fait un gigantesque plan d'un temple à 5 nefs, à 3 faces, à 18 tours, avec
complètement...
des références mythiques.
C'est complètement débile. Oh, on me dit que Stéphane Lachance prend des notes concernant le tramway générateur d'accidents depuis 100 ans. On verra le chemin qu'il va faire avec ça.
Donc, depuis 2010, elle est consacrée basilique. Et on a mis au top de cette tour-là une croix, mais pas une croix qui est standard, une croix qui va dans toutes les directions, qui est faite de céramique et de verre, qui est illuminée.
Là,
mais c'est absolument spectaculaire.
Là, on a fait un show de drone, ouais, avec orchestre symphonique, chorale, toute la patente.
Vous voyez Anthony Gaudi, de ce que je comprends, là, qui était l'architecte de base, ouais, de tout ça. Et pourquoi ça a été aussi long? D'abord, il y a eu l'histoire du financement. Parce que c'est le tourisme qui a financé la construction cette œuvre-là. Les gens qui y vont payaient un montant.
Des dons et compagnie.
Des dons. Puis d'ailleurs, on espérait que la construction de cette dernière tour-là soit terminée un petit peu plus tôt, mais il y a eu ce qui s'appelle la COVID.
Oui, c'est un an, ça.
Ils ont eu des problèmes à avoir de l'argent à ce moment-là, fait que ça a pris du temps avant de pouvoir le récupérer. Et quand je vous disais que c'est pas terminé, en principe, il y aurait une autre batch qui devrait se faire sur les 10 prochaines années, sur la façade de la gloire et ses 4 clochers. Le problème, c'est qu'actuellement, ça entraînerait la démolition de 2 pâtés de maison. Et ça intéresse moins les gens. Puis vous dites, ouais, mais comment on fait pour réaliser l'œuvre d'un architecte qui est mort il y a 100 ans de ça?
Ouais.
Anthony Gaudi avait pris le temps de faire une maquette.
On est encore là-dessus? On est
encore
sur
cette
maquette-là? OK, moi, je pensais qu'on avait commencé à prendre des libertés.
Non,
tout,
on est toujours avec sa vision à lui, qui était liée à l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, on espère qu'il soit béatifié un jour. Mais lui, là, avait tout construit. Fait qu'imaginez, là, en 1882, il est parti d'une maquette pour commencer la Sagrada Familia.
Je trouve ça hot que ça vienne de dons, puis que ça ait pris autant de temps à cause de ça. T'sais, tout le monde a du sien là-dedans.
Puis là, il y a plein d'histoires qui sont sorties parce qu'il y a des énigmes sur les différentes façades. Ça fait très Dan Brown là, quand on lit ça. Il y a des symboles, il y a des chiffres qui se retrouvent un petit peu partout. Fait que, mettons, quelqu'un qui est fasciné par pas juste la religion, mais toutes les histoires qui l'entourent, je pense que ça peut rendre fou de visiter cet endroit-là, mais c'est tellement beau. Puis on vous parlait de la mise en pré-vente du plus gros Lego, des Lego architecture.
Ouais.
Le Lego se fait dans l'ordre de construction de la basilique, de la Sagrada Familia.
C'est tellement bien pensé, là.
Je trouve ça absolument génial. C'est les détails de l'intérieur, des vitraux, de tout ce que vous voulez. J'ai jamais rêvé d'avoir un Lego de ma vie, mais celui-là, c'était pas aussi cher.
Écoute, c'est une œuvre d'art hallucinante. Présentement, il est en précommande. Il va être disponible le 1er novembre prochain. Il est à 1099,99 $. Et c'est un Lego de 12 060 morceaux. On le recommande pour 18 ans et plus. Puis la beauté de ces Legos-là, pour les gens qui ne savent pas, c'est que oui, tu fais l'extérieur, mais tu fais aussi l'intérieur de la cathédrale. Puis on a comme trouvé un processus ultra ingénieux pour faire des effets de vitrail avec des Legos.
Il n'y a aucun sticker de collé là-dessus.
C'est hallucinant.
Tout est vraiment les pièces qui sont faites comme ça. Fait qu'il y a le Lego, mais ce soir, effectivement, si vous avez le temps de regarder les images de cette cérémonie-là, puis la silhouette de la ville de Barcelone est déterminée par ça parce qu'elle est tellement haute. Elle ne dépasse pas, par contre, il y a une colline un petit peu plus loin, là, puis ça a été calculé que la tour la plus haute ne la dépasse pas parce que l'architecte considérait que la colline de Montjou, je pense, était une œuvre de Dieu, fait qu'il ne fallait pas que la basilique soit plus haute que ça. Mais c'est absolument spectaculaire, c'est magistral comme œuvre.
Hey, je veux qu'on retourne dans l'actualité un petit peu dans les dernières histoires de crimes organisés qu'on a eu à Québec dans les dernières années. Oui. On s'est souvent fait raconter le même modus operandi où c'est des flots de Montréal qui viennent commettre des crimes à Québec. Souvent, c'est des crimes salopés, mm-hmm. tout croche, faits par des amateurs à qui on promet des grosses sommes d'argent parce que les organisations criminelles sont rendues couillonnes puis font pas leur sale boulot eux-mêmes. Ils utilisent nos jeunes.
L'histoire la plus tragique, c'était dans le secteur de Frampton, quand on a retrouvé le corps d'un enfant de 14 ans qui avait été mandaté pour partir de Montréal avec un de ses amis pour faire peur. Puis finalement, ça a mal tourné, puis il en est décédé. Puis il y a eu un super article qui a été publié par Radio-Canada un petit peu plus tôt aujourd'hui sur le projet Aurora. Le projet Aurora, c'est un projet qui a été monté par le service de police de la ville de Montréal en janvier dernier. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est d'intercepter des jeunes avant qu'ils ne commettent les méfaits.
On fait ça comment?
On essaie d'avoir de la vigilance sur les médias sociaux. On essaie de rester attentif quand des parents signalent, par exemple, une fugue, un enfant qui n'a pas donné de nouvelles, un comportement qui pourrait être douteux, des messages qui les ont alertés. Puis le texte commence à donner un exemple en avril dernier. Un jeune Montréalais qui a été intercepté dans le secteur de Chappais à bord d'un véhicule. Dans le véhicule, il y avait deux autres individus puis une arme à feu. Puis eux autres, ils devaient se rendre sur la côte nord. Puis c'est grâce au travail des enquêteurs du projet Aurora qu'on avait été capable de les intercepter avant que ça aille plus loin. Et c'est un phénomène qui s'est multiplié. Des jeunes citadins qui décrochent des contrats sur des réseaux sociaux pour effectuer des crimes violents loin de chez eux, en région. Et pourquoi en région? On leur dit, personne ne va te pogner en région.
Ben oui, c'est ça.
Tu ne seras pas pogné en région. On joue beaucoup avec ce mythe-là que, vu que ça va être loin, ce sera ça. Actuellement,
souvent, c'est des gens qui n'ont jamais quitté l'île.
C'est beaucoup de monde qui n'ont jamais quitté l'île.
Fait que c'est facile de bourrer là-dessus.
Ils ont quelques 120 dossiers actifs. 70 informations transmises à des corps de police à l'extérieur de l'île de Montréal. Et ça, c'est seulement depuis janvier.
Moi, ce qui me fait de la peine, c'est à quel point maintenant les gens dans le besoin sont rendus la chair à canon de tout le monde. Tu sais, on voyait que Michael Jackson se servait de ça pour avoir des victimes, là, des familles qui vendaient littéralement leur progéniture à Michael Jackson. À petite échelle, maintenant, c'est le crime organisé qui se dit, ben nous autres, on prendra pas de chance, on va garder nos membres en règle, puis on va demander à des flots grâce à l'appât du gain, d'aller faire des jobs sales dans des régions au loin, puis ainsi de suite. Des flots de 13, de 14, de 15 ans, tu sais, avec des mitraillettes.
Ça n'a pas, pas de
bon sens. Le recrutement qui débute sans surprise sur Snapchat puis Instagram. Puis ensuite de ça, c'est là qu'on s'en va vers les plateformes cryptées. Les Signal puis les Telegram de ce monde. Puis là, dans toute anonymité, on offre des contrats à des jeunes de 13 à 23 ans en leur faisant miroiter de l'argent, en utilisant un jargon. Puis on nous donne des exemples du jargon, là. Mettons, pour participer à un barbecue, c'est un incendie criminel. Recevoir 3 battes, c'est l'équivalent de 3 000 $. Fait que, tu sais, on essaye d'y aller de manière un peu tout croche pour que ça passe en dessous du radar. C'est très, très, très opaque, surtout qu'on fonctionne sur des plateformes cryptées. Puis là, après ça, tu sais, on peut redonner le contrat à plusieurs reprises parce que souvent, on ne se rend même pas à échéance à travers tout ça. Ce ne serait pas nécessairement le crime organisé, mais des criminels qui veulent profiter de situations. Je vous ai mentionné le fait qu'en région, on leur faisait valoir que c'était très, très, très lucratif, que plus la distance est grande, plus il y a de risques, plus le montant est élevé. Fait que c'est un peu comme ça qu'on essaie de les accrocher. Puis, toujours dans cet article-là, là, on parle des parents, d'être vigilants. C'est pas normal que votre enfant de 10, 11, 12 ans ait Telegram ou Signal sur son téléphone. Il n'est pas censé avoir besoin d'une application qui est cryptée.
Véro, il y a tellement de parents qui ne sont pas au courant de rien. Moi, je suis chanceux, là, j'ai une Wiz à la maison qui m'aide à garder un peu le contrôle puis la surveillance là-dessus. Mais tout seul, moi, je ferais partie des parents qui n'y arriveraient pas.
C'est pour
là,
ça qu'on demande
garder...
d'être vigilant. T'sais.
Oui, mais même vigilant, là, on est complètement dépassé. Ils sont meilleurs en technologie que nous autres.
Et le dernier punch de cet article-là, c'est cette phrase-ci. Il est illusoire pour ces jeunes de penser faire un sou avec de tels contrats. À peu près personne ne se fait payer pour ces contrats-là.
Ben, c'est terrible. Mais pourquoi ça marche encore? Tu sais, à partir du moment où il n'y a
ça
pas de paye.
Pas.
Ça se sait pas.
Ben non.
Tout se sait, il me semble.
C'est manipulable, je veux dire.
Est-ce que les... on a vu là, que la SQ a commencé à faire pas mal de vidéos là, sur les plateformes puis tout ça.
Oui.
Faire une couple de vidéos là-dessus là, en racontant des histoires de quelqu'un qui a fini dans un moulin à écorce.
Ce que le SPVQ a fait, troué par balle.
Oui.
Avec des vraies histoires.
Oui, c'est vrai.
Des vrais témoignages. Puis ça, c'est de la prévention qu'on va faire chez les jeunes avant ces âges-là. Fait que âge primaire, pour essayer de leur dire, hey, quand si on vous vante à un moment donné une version qui est tellement romancée du crime, c'est vous qui allez payer.
C'est plate.
Vous allez de la chair à canon.
C'est plate parce que, oui, de la prévention, il y en a toujours eu, mais j'ai l'impression qu'on pète la bulle de l'enfance de plus en plus
tôt. C'est tragique, hein?
Wow, ça me brise le cœur.
Mais tu sais, d'un autre côté, quand on était jeune, on les a toutes vues, les vidéos pour nous dire de ne pas embarquer avec des inconnus, puis ton corps, c'est ton corps.
Mais là, on est rendu dans le plus explicite parce que nos jeunes sont exposés plus rapidement à du plus explicite aussi. Tu sais, j'ai des conversations, je vais devoir avoir des conversations avec mes enfants que moi, j'ai eues avec mes parents, j'étais rendu à quoi, 15, 16 ans à peu près, sur les drogues, sur le sexe, sur un paquet parler de sollicitations, whatever, mais là, il n'y a comme plus de sujets que tu peux éviter.
Mais c'est parce qu'on dirait qu'avant, en fait, au-delà des sujets comme le sexe et compagnie, tu n'avais pas à t'inquiéter de rien d'illégal, on dirait, en bas de la majorité.
Non,
tu pouvais garder l'enfant, tu sais, longtemps.
Ce qu'on avait à s'inquiéter, c'est même capote.
Genre?
Ouais.
Puis dis non à la drogue.
Et dis non
c'est
à la
mal.
Drogue. Mais...
C'est autour de 15-16 ans.
Là, on est rendu ailleurs. Puis des gestes de con peuvent avoir tellement de conséquences. Il y a quelque chose de profondément triste là-dedans. Puis à retarder ces conversations-là, nous autres, ben on tombe dans les gens à blâmer, tu sais. Moi, j'ai encore de la misère, même quand tu le dis dans les nouvelles. Tu sais, un jeune de 13 ans.
Ah oui.
Je n'ai un de 12 à la maison, mais je ne suis pas capable de faire le lien entre les deux. Ça me dépasse. En tant que parent, ça me dépasse complètement.
Il n'y a clairement pas un parent de jeune là-dedans qui peut s'attendre à ce que son jeune soit dans des conversations de même sur les réseaux sociaux.
Tu sais, je vous parlais du petit gars à Frampton qui est retrouvé mort, là, un gars de Montréal. Lui avait raconté à ses parents qu'il s'en allait au cinéma. Y a-tu quoi de plus banal qu'un flou de 14 ans qui s'en va avec un ami au cinéma?
Imagine. On peut bien être parano toute la gang, tabarnouche. On a 27 degrés présentement à Québec. Beaucoup de nuages dans le ciel de la région. Il y a un 30% de probabilité d'averse pour ce soir. Mais ce qu'on retient, c'est le minimum à 19 degrés. Jeudi, demain, nuageux. Alternance soleil-nuage en mi-journée avec un maximum de 30 degrés. Un humidex à 38. Il y a un 40% de probabilité d'averse en après-midi. Vendredi, 60% les chances de pluie avec un maximum de 25. Degrés, on a gagné du soleil pour samedi avec un maximum de 26. Ça, c'est la dernière révision météo. Ça, c'est des bonnes nouvelles. On va les prendre. On prévoit toujours de la pluie pour dimanche avec un maximum de 20 degrés. Sur les routes, Audrey?
Il y a encore quelques problèmes si vous êtes sur la capitale, direction Est, auteur Robert Bourassa. Pour le reste, ça roule.
Je peux pas croire qu'on s'est rendu au bout de cette émission-là.
J'ai de la misère à le croire aussi.
Oui, on a vraiment...
On est vendredi demain?
On est jeudi, puis on a un gros jeudi avec une annonce très importante.
Jeudi.
Oui, c'est un super jeudi avec une annonce très importante pour l'avenir de Gravel dans le retour à compter de 16h. Soyez-y. Et d'ici cette annonce, ben dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres.